Dynamique Radio. Dynamique, premier sur le web.
Dynamique Radio, on est en direct sur le www.dynamiqueradio.fr. C'est l'After School.
Est-ce que c'est cool?
Et on est content. Allez, on peut s'applaudir déjà dans un premier temps. Et surtout, on applaudit notre invité. Il nous fait l'incroyable plaisir de sa présence parmi nous. En plus, il est en pleine promo.
Je fais toujours des incroyables plaisirs.
Moi, et vous l'avez reconnu, incroyable. C'est Christophe Beaugrand qui est avec nous.
Bonjour.
Bonjour Christophe, comment tu vas?
Très bien, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour commencer la semaine, c'est parfait.
Eh ben oui, super, super semaine avec la deuxième partie des finales de Ninja Warrior.
Oui, il y a eu la première partie de la finale samedi soir et la fin... On saura enfin si nous avons un vainqueur cette année, qui ira au bout, qui va tenter de gravir la tour des héros, ce sera samedi prochain, voilà.
Un petit indice ?
Je ne donnerai aucun indice, en plus on a tourné il y a 6 mois, je ne m'en rappelle plus.
2 millions de téléspectateurs hein, quand même, voilà, sur TF1 c'est énorme, c'est un super succès d'audience. Et puis bah, ça se, voilà, c'est saison 7 quand même.
Et ouais, saison déjà. 7, on va tourner la 8 dans
ouais,
très
tu
peu
repars,
de temps, là, fin mars, ouais. Ouais, fin mars, début avril, on tourne la saison 8 avec pas mal de nouveautés.
Okay.
Et voilà, alors c'est vrai que... pour tout te dire, ça devient compliqué les audiences maintenant. L'émission marche toujours très bien, notamment sur le public jeune, sur les enfants. On fait quasiment 50%
ouais,
de part de marché
sur les
enfants.
Sur les
mais
enfants.
Après, c'est vrai que les audiences sont devenues rudes en télévision aujourd'hui.
Ouais, voilà. Alors il y a l'audience cumulée aussi.
Exactement.
Donc, vous récupérez peut-être votre audience. On parle
exactement.
De plus de 2 millions de personnes.
On est à 2 millions et demi
sur
plutôt,
TF1. Ouais, ouais plus
on
de 2 millions,
est
2 millions et demi.
Ouais, ouais.
Et avec ton audience cumulée,
on doit pas être l'un des 3 millions. Mais effectivement, aujourd'hui. T'as raison, il faut accumuler les audiences de voilà, à la
en
télé
live.
En live et puis évidemment les audiences web et toutes les vidéos vues parce que des fois tu ne regardes pas forcément en entier le replay mais tu as plein de vidéos vues etc. Donc il y a voilà c'est une façon différente d'envisager la télévision et de la consommer mais les jeunes la consomment différemment, ils regardent plus trop les émissions en direct parfois mais très souvent c'est une consommation différente ouais.
Est-ce que les nouveautés sur cette saison ont fonctionné?
Oui, alors je me rends compte, parce qu'on est très à l'écoute avec la production, avec Denis Brognard, Iris, des remarques des téléspectateurs, et on s'est rendu compte que la fameuse Memory Tower dont on parlait,
c'est exactement ce que j'allais dire.
On explique beaucoup trop ouais. Les prises piégées, oui. Ils le passent toutes les 5 minutes, c'est insupportable.
Oui.
Moi-même, en regardant le truc, je dis, bah, attends, ça va, on a compris, et puis la deuxième prise gauche, bleue en partant
c'est
de
ça,
la gauche, on est perdu.
Non,
peut-être.
Faudrait même pas leur dire.
Non, mais peut-être que la mécanique est un poil compliqué. Compliqué.
Okay.
Un poil trop compliqué sur la saison qu'on a voulu amener des nouveautés. C'est peut-être un poil compliqué à suivre. Donc, on va revenir sur des fondamentaux sur la prochaine saison et avec une nouveauté qui va changer énormément de choses, qui va être énorme vraiment. Là, ça change.
C'est quoi t'es obligé de
je
le dire.
Je ne peux pas le dire.
Ah, t'es obligé.
Non, mais ça va changer radicalement les choses dès le début.
Sur le parcours,
il va y avoir des choses très différentes. Enfin, c'est le parcours qui va être très différent pour tout vous dire. Et après, c'est une envie qu'on a avec Denis aussi, c'est de revenir aussi avec parfois des obstacles un peu moins difficiles pour que des nouveaux venus puissent essayer, que ce ne soit pas uniquement ceux qui sont trop forts qui y arrivent. Parce que du coup, ça enlève un peu le côté tout le monde peut essayer.
Ouais.
Là, ça a peut-être un côté un poil trop inaccessible. Donc voilà, on écoute ce que disent les gens et on essaie de faire évoluer.
C'était qui tes candidats favoris sur cette saison?
Oh, ça dépend. Il y en a un qu'on a découvert il y a une dizaine de jours dans le dernier prime qu'on a diffusé, les jeunes, la jeune génération, la relève. Il s'appelle Sébastien. Il a à peine 18 ans, Sébastien Spett, et il est incroyable parce que... on dirait encore dans sa façon d'être un petit garçon, mais en même temps, il réussit des prouesses incroyables. Et lui, il a regardé l'émission, comme on est des vieilles personnes avec Denis Brognard maintenant. Il avait 11 ans quand on a commencé l'émission. Et du coup, il a attendu d'avoir ses 18 ans. Et pour lui, il avait l'impression d'arriver, de voir la Tour Eiffel quand il a vu le décor de Ninja Warrior. C'était dingue. Et le plus drôle, c'est que lui, son truc, on lui disait le chèque des 100 000. Non, ce qu'il voulait, c'était le pull de finaliste.
Ouais, c'est ça.
Donc, il a eu le pull de finaliste. Donc,
d'accord.
Tout va bien. Vous verrez ensuite que... ce qui va se passer mais il a eu le pull de finaliste donc je lui dis bon ça nous ferait des économies hein, si on avait que des gens qui voulaient le pull ça coûte beaucoup moins cher hein, on
c'est
fait
sûr.
Ça hein.
Est-ce qu'on peut avoir le pull sans participer au...
faut être très gentil avec moi
ok je sais quoi faire alors
okay. Mais je serais très gentil avec toi mais... même une radio qui t'invite elle peut pas avoir le pull direct
bah, si j'avais su je serais venu avec j'en ai un en plus
et ben on
damn
mais j'ai pas celui de finaliste
on vous le fera gagner
celui de finaliste on n'a pas le droit mais j'ai le pull Staff Ninja Warrior avec le logo en rouge dessus. Pull finaliste, c'est uniquement pour les finalistes. Ça, même moi, je ne l'ai pas eu.
Non, c'est normal. Mais du coup, ouais, tu disais que vous allez repartir en tournage bientôt, donc fin mars.
Ouais, c'est tôt hein, les tournages par rapport à la diffusion.
Oui. Et du coup, on se posait la question parce que c'est un barnum absolument phénoménal.
Ah, c'est énorme,
en fait.
Ouais, c'est quasiment 10 000 mètres carrés, c'est le plus grand plateau d'Europe, donc oui, c'est gigantesque.
Et comment ça se passe du coup? C'est combien de semi-remorques? C'est combien de temps d'installation?
Pour le coup, je sais pas combien de semi-remorques, mais c'est gigantesque. Il y a plus de 15 jours pour construire le décor avant même qu'on commence le tournage. Hein. Et du coup, c'est là que ça devient compliqué parfois pour trouver le moment pour tourner parce qu'à Cannes, on tourne toujours à Cannes, il y a beaucoup d'événements. Donc nous, on y va au moment où il y a la place.
C'est ça.
C'est pour ça qu'on aimerait parfois tourner plutôt au mois de juin, juillet, parce qu'il fait un peu plus chaud, parce que nous, la nuit, il fait un peu froid quand nos pauvres candidats tombent dans les piscines. Ils le sentent un peu passer parce que fin mars.
C'est pas les seuls à tomber dans les piscines.
Mais c'est exactement ce que j'allais dire.
Ça, c'était il y a longtemps, mais bon.
Fait splash.
Elle était mémorable, celle-là.
Un jour, je me vengerai.
Allez, voilà la surprise de la saison 8.
La vengeance, c'est un plat qui se mange froid et il fait froid dans nos piscines.
C'est Denis Brognard qui sera dans l'eau dans la saison 8.
Il va boucher le filtre, il est trop grand.
Quid d'ailleurs de ce troupe là, Denis Brognard, Miss Univers et toi?
En tout bien, tout honneur.
Ça se passe bien.
Ouais, ça se passe super bien. On a eu les deux premières saisons, notre troupe comportait Sandrine Quétier.
Oui,
et
absolument.
Puis après, Sandrine a quitté TF1. Elle a eu envie de faire autre chose que de la télévision, de faire de la chanson, du théâtre, etc. Et du coup, c'est Iris, fraîchement élue Miss Univers, qui nous a rejoint. Ce qui est drôle, c'est que l'année précédente, la saison 2, elle avait participé en tant que candidate. Elle était tombée tout de suite dans l'eau.
Ah, je me souviens pas.
Ouais, elle s'était cassée un ongle. Elle était très très perturbée.
Elle a dû changer de.
Non, mais ce qui est hyper drôle, c'est que nous, on éprouve beaucoup de plaisir à se retrouver chaque année parce que il y a un côté colonie de vacances. Il y a nous trois, on s'entend hyper bien avec Denis. Il y a les équipes techniques et rédactionnelles qui sont souvent les mêmes. Il y a des candidats qu'on retrouve aussi qui reviennent d'année en année. Donc il y a un petit côté colo. On est pendant 10 jours à Cannes. Alors au soleil généralement la journée. L'année dernière, on a eu un temps pourri, mais en général, il fait beau. Et oui, c'est devenu un rendez-vous.
Voilà, on parlait de Ninja Warrior. Ouais.
Ouais. C'est quoi, du coup, ton souvenir le plus marquant de cette année?
Ah, de cette année, le souvenir le plus marquant, vous le verrez dans le documentaire qu'on a tourné, qui sera diffusé après. Il est disponible déjà, il y a des parties sur MyTF1, il sera disponible, enfin, il sera diffusé en télé après la finale pour que les gens comprennent un peu ce que c'est, comment ça fonctionne et la grosse machine que c'est. Mais surtout, c'est qu'on a eu une année l'année dernière, je ne voudrais pas dire du mal de nos amis cannois parce qu'il fait d'habitude extrêmement beau.
Ouais, t'as une année terrible.
Mais on a eu une année de merde en termes de météo, il faisait très froid, il a beaucoup plu. On a des assurances pour décaler le tournage, on a deux jours de décalage, il faut savoir que ça coûte un fric incroyable. Une journée de décalage, c'est 100 000 euros à peu près, c'est très très cher. Donc les assurances viennent vérifier et constater qu'il y a un expert qui vient pour vérifier qu'effectivement ça n'est pas possible de tourner. C'est très compliqué. On devait s'arrêter dans la nuit, sécher le parcours, reprendre après. On a terminé à 4-5 heures du matin. Donc, non, c'était chaud.
C'est
non,
pas une partie de rigolade. C'est...
Mais on s'amuse beaucoup, heureusement. Mais c'est vrai que cette année, c'était un accouchement dans la douleur.
C'est ça. Dire. Animateur touche à tout, puisque aussi, donc, tu fais du divertissement depuis de multiples années, mais aussi de l'info.
Ouais.
Tous les week-ends sur LCI, notamment avec la matinale.
Exactement. Et les matins LCI week-end que je co-présente avec ma camarade Anne Chloé Beauté. J'y tiens parce qu'on est un duo, on s'entend hyper bien et moi j'adore présenter à plusieurs, je m'éclate avec Denis et Iris, enfin je suis plus avec Denis, Iris et avec les candidats, donc on est moins en interaction, mais avec Denis c'est un vrai tandem. Avec Anne-Chloé avec qui je travaille, c'est pareil, c'est un vrai duo. Et en plus, on a des chroniqueurs, notamment Karima Charny,
qui était
dans la Starac, exactement. Donc, il y a un vrai esprit de bande. Donc, finalement, là, c'est pour faire de l'info, mais c'est la même idée, la même énergie de partager avec le public.
Et tu participes à plein de trucs sur TF1. Tu te déguises en ours pour Masked Singer.
C'est vrai.
Tu participes au grand concours.
Oh, c'était génial.
Tu présentes le loto, les fêtes de fin d'année. Ça fait combien de temps que tu travailles pour cette chaîne déjà?
Alors, si jamais tu... Alors, sur TF1, c'est depuis 2009.
Ouais.
Mais en fait, si jamais tu parles du groupe TF1, moi, j'ai commencé en stage à LCI en 99.
D'accord.
J'y ai passé 8 ans.
Un autre temps.
8 ans, oui, ben oui.
Et oui, ben monsieur.
Je tiens à vous dire que j'ai été, mes premiers salaires étaient en francs. Voilà, c'est pour vous dire à quel point je suis très âgé.
Ça ne se voit pas du
tout. Mais écoutez, je mets beaucoup de crème pour la peau.
Elle fonctionne bien alors.
Mais c'est vrai que j'ai passé 8 ans à LCI. Après, j'ai passé 2 ans à Canal+, où je n'ai pas été très heureux.
Ouais, t'as pas
aimé. Et puis, je suis revenu à TF1. On m'a demandé de venir.
50
Minutes Inside. En fait, j'avais participé à la création de l'émission 50 Minutes Inside avant de partir à Canal. Canal les 6 premiers mois, mais j'étais journaliste de la rédaction, on me voyait pas à l'image. Et puis après, on m'a rappelé pour être chroniqueur à Inside,
ouais,
à l'image.
Ça marchait super bien. Voilà.
Et puis ensuite, pour
voir.
Faire plein d'autres choses, mais ça a été, on va dire.
Crescendo.
Exactement, doucement, mais sûrement.
Est-ce que tu es vraiment extrêmement maladroit ou est-ce que c'était un peu ta marque de fabrique, toutes les chutes que tu as eues, notamment à quand tu étais Inside parce que c'est...
Non, je ne fais pas exprès.
Non, je suis très maladroit. Je suis très, très maladroit.
Moi, j'avais mal pour toi à chaque fois. Hein, clairement.
Non, alors mon corps est en ouais. caoutchouc parce que
je ne me fais
jamais vraiment mal. Mais non, oui, en fait, pour tout vous dire, j'ai des petits problèmes d'oreille interne qui expliquent le fait que j'ai peu d'équilibre.
D'accord.
Et donc, du coup, moi, s'il y a une marche que je vois pas ou un truc, c'est une catastrophe. Et puis, j'ai tendance à être un peu. Je suis concentré dans mes trucs, donc parfois je loupe. Et voilà. Mais je suis un peu maladroit, mais c'est naturel.
Mais ça s'est calmé quand même, hein, j'ai l'impression. Hein.
Ah, bah, j'essaie de faire attention. Oh, bref, si vous regardez ma matinale sur LCI, il y a toujours beaucoup de. C'est plus des maladresses pour le coup de langage parce que je gigote moins, mais faut pas me faire trop bouger.
Faut pas le faire trop bouger.
C'est dangereux.
C'est une histoire de chaise. Voilà, là, exactement. Il ne risque rien.
J'ai eu ça, oui, parce que si en plus on me donne des chaises qui tombent, j'ai eu ça sur LCI il y a 15 jours.
Il y a peu
oui.
de temps.
Une chaise qui elle est descendue d'un coup comme ça.
Mais tu le prends bien.
Oh, bah, il faut.
T'as toujours le sourire, t'es toujours dynamique, sympa.
Je suis assez joyeux comme garçon.
T'es assez joyeux, ouais.
Bah, quand on a la chance, honnêtement, je pense qu'il y a dans les gens qui nous écoutent, certains ont des rêves du métier qu'ils rêveraient de faire.
T'as réalisé tes rêves.
Tout le monde n'a pas la chance de faire un métier qu'il aime et qu'il passionne. On en parle beaucoup à la faveur de la réforme des retraites en ce moment. Et pour beaucoup de gens, c'est une souffrance d'être au travail.
Moi, tu peux travailler jusqu'à 90 ans.
J'ai la chance de faire le métier que je rêvais de faire quand j'étais gamin. Donc, c'est un luxe incroyable. Et du coup, ce bonheur-là que je vis, j'ai envie de le transmettre aux gens. C'est la moindre des choses, je pense.
Voilà, on parlait télé, on va parler radio, parce qu'il est résident aux Grosses Têtes aussi. Hein. Comment tu es rentré dans la bande, alors, du coup?
En fait, j'ai rencontré Laurent Ruquier à l'époque sur Europe 1,
ouais,
sa précédente émission qui s'appelait On va se gêner. En fait, pour tout vous dire, j'étais chroniqueur chez Morandini.
Aussi,
je faisais
oui.
des petits papiers un peu moqueurs. Et un jour, il y a un papier que j'ai fait, une petite chronique, où il était question de Carla Bruni.
Oui, parce que tu l'imites très bien.
Où je me suis un peu moqué de Carla Bruni. Et en fait, pour tout vous dire, il y a cette chronique, le président Sarkozy de l'époque, cette chronique a été entendue à l'Elysée. Le script de ma chronique est arrivé sur le bureau des dirigeants d'Europe 1. J'ai été viré du jour au lendemain.
No way!
Juré.
No
way. Juré, c'est vrai.
Okay.
Et du coup, à cette époque-là, bah, moi, j'ai rien dit parce que j'étais pas très, très connu. Donc, si j'avais fait un buzz... ils auraient eu beau jeu de dire bah non, on l'a viré parce qu'il était nul et parce qu'on est... Donc on m'a dit tu seras tricard quelques mois et il se trouve que Laurent Ruquier a entendu parler de cette affaire. Il m'entendait de temps en temps quand il préparait son émission, il entendait ma chronique, il me trouvait plutôt rigolo et il a voulu me rencontrer à ce moment là en me disant ça me ferait plaisir que tu rejoignes l'équipe. Donc je me suis retrouvé tricard entre le mois de décembre et puis 6 mois après, en septembre qui suivait, j'arrivais. Donc c'était un mal pour un bien. J'arrivais finalement chez Ruquier. Voilà.
Et là, ça fait longtemps.
Dans la bande
Ruquier en plus.
Bah là, ça fait, je crois que c'est la 9e saison des Grosses Têtes ou la 8e ou la 9e, je crois, qui a commencé. Donc voilà, moi, quand il est parti sur RTL, il m'a dit bah, ça me ferait plaisir. Si tu veux venir, viens. Et voilà. Et ça a très bien fonctionné avec RTL. J'ai même fait des remplacements là-bas. Je présentais les petits
oui,
matins.
Les étés.
Exactement.
T'as un lève-tôt aussi, du coup. Le week-end et l'été.
Tu
seulement.
L'es devenu ou tu l'as toujours été?
On m'a fait des propositions qui ont fait que. Mais moi, à la base, j'aime bien dormir.
On dirait pas. Hey,
tu dors la semaine.
Oui, mais j'ai un petit garçon. Donc
oui, donc tu l'emmènes à l'école. En plus.
Et je l'emmène à l'école. Ouais, non, mais après, j'ai tendance à me réveiller tôt, de toute façon. Donc,
Très bien. Et tu as commencé très jeune, en plus, à la radio, parce qu'on parle d'RTL, on parle d'Europe 1.
J'ai commencé à 14 ans.
Tu as commencé
sur des petites radios locales.
Ouais.
Là.
Ouais, radio locale.
Bah, moi, j'ai 46 et j'ai commencé, en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà 32 ans de métier,
ouais,
puisque j'ai commencé la radio à 14 ans dans une petite radio locale à côté de chez moi, dans le 91. Et voilà, c'était ma passion. Donc là encore, je passais ma semaine à préparer mes interviews, mes émissions, etc. Il y avait ma maman qui m'accompagnait le samedi à 14h pour mon émission, que personne n'écoutait, qui était une radio minuscule, mais j'étais très content de le faire et c'est là que j'ai fait mes premières armes et que j'ai appris mon métier.
Très bien, bah ce que je te propose, c'est une pause musicale.
Avec
on
plaisir.
Écoute Soprano avec Ninja, on revient dans quelques instants.
Ah bah Ninja, c'est très bien pour moi, c'est parfait. Comme un ninja.
Tu l'as plaqué pour un prince charmant, grand musclé, gros bolide allemand. Cultivé, riche et élégant, il avait le pedigree d'un super amant. L'homme parfait, l'homme rêvé, il avait tout ce que l'autre n'avait pas. Il t'offrait du LV, t'as tout fait pour qu'un jour il te mette la bague au doigt.
parti comme un ninja. Il est parti comme un ninja. Il est parti comme un ninja. Il est parti comme un ninja. Tu l'as largué pour une latina. Grande brune gaulue comme une Rihanna. Robe moulante, prof de Zumba. Au lit, elle t'a fait croire que t'avais 20 ans. Ta femme parfaite, t'en rêvais. Elle avait tout ce que l'autre n'avait pas. Tu offrais du Dolce. T'as tout fait pour qu'un jour tu lui mettes la bague au doigt. Toi, toi. Mais dès qu'elle a vidé ta visa, za, za. Elle est partie comme un ninja. Parfait, en amour rien n'est parfait. Tu envoies tous tes regrets à ton ex en espérant le revoir. Voir, voir, ton message est resté en nous un soir, cinq soirs, dix soirs. Car il est parti comme un ninja.
De retour sur Dynamic Radio. Je vais y arriver là.
Excusez-nous, un petit renvoi de Frédéric, mais tout va bien. Dans sur Dynamic Radio. Voilà.
Dans l'After School avec Christophe Beaugrand. On l'applaudit encore. Merci à toi d'être venu.
Il faut qu'il arrête la bière pendant les disques.
C'est ça,
hein.
C'est
en plus,
ça.
Je n'en bois pas. Mais... J'ai peut-être pris trop de coca par contre, en effet.
Prononce allez. Bien quand même. Coca,
hein. Coca.
Prononce bien la deuxième syllabe.
Oui, Coca. Oui. Coca-Cola. Voilà. Ouais, plus précisément. Alors,
de soda.
Eh oui, de soda aussi. Alors, tu es présent parmi nous pour la promo voilà, des finales de Ninja Warrior, hein,
oui.
De la finale saison 7.
Oui, c'est
là.
Une finale absolument. Coupée en deux cette
coupée
saison.
En deux,
c'est
voilà.
Une nouveauté donc, de l'année, ouais.
Voilà, on a eu une partie de la finale. Donc, ce samedi, on aura l'autre partie. Ce samedi, y aura-t-il un gagnant cette année? Nous,
suspense.
Il y a 100 000 euros à la clé. Je ne veux pas nous le dire, donc et on ne saura pas.
Non, mais j'ai oublié.
Ça va tellement.
C'est pas que je peux vous le dire, c'est que je ne sais pas.
Il ne sait plus. Il ne sait
qui
plus.
Êtes-vous? Bonjour.
Et alors, on tenait
Isabelle,
aussi, voilà, on tenait aussi à t'avoir par rapport à un ouvrage qui est sorti il y a quelques temps en librairie, qui connaît d'ailleurs un vrai succès. Tu auras l'occasion
ouais.
De nous en dire un peu plus. On a combien d'exemplaires vendus d'ailleurs
là, en fait, on était à plus de 20 000 sur
d'accord.
Le format classique.
T'as et, le poche qui est sorti
le poche, on est dans les 10 000. Donc, on est
c'est
hyper content. Le poche a cartonné et je vous ai amené la version classique avec les photos, mais effectivement il est sorti il y a un moment maintenant, il y a plus d'un an, presque un an et trois mois, et effectivement il y a quelques semaines on a sorti le livre de poche en octobre-novembre.
C'est ça.
Et j'ai écrit quelques chapitres supplémentaires
en plus,
aussi pour
donc ça vaut
raconter
vraiment le
coup un peu ce qui s'était
de
passé
poche.
Depuis le premier livre.
Ah, il y a une update.
Mais oui, parce que j'ai eu la chance de rencontrer énormément de lecteurs quand on a fait les séances de dédicaces et c'était souvent des témoignages hyper touchants, donc j'ai eu envie de partager ça avec le public, avec ceux qui avaient envie d'acheter le livre, j'avais envie d'écrire ça en plus ouais.
Voilà, Fils à Papa ça s'appelle, c'est sorti aux éditions Plo, disponible donc en poche
avec un S à Papa parce qu'il y en a deux
et, voilà,
oui,
oui. Y en a deux. Et aussi
le jeu de mots.
Donc téléchargeable sur le site de la Fnac ou d'Amazon et
oui exactement, il existe aussi effectivement
sans les photos
en version numérique. Ah, y a pas
alors
et justement, ouais, ça tombe bien que tu parles de ta tournée promotionnelle, parce que moi j'avais une question par rapport à ça. En quoi ça a été important pour toi de faire cette tournée, et est-ce que ça peut être considéré comme entre mille guillemets pour défendre cette cause.
C'était très important pour moi. Moi, j'adore dans l'absolu aller à la rencontre des gens, à la rencontre du public dans l'absolu. Et là, sur ce projet-là, qui était un projet très personnel, c'était important pour moi d'aller un peu partout. On a fait une vingtaine de dates dans toute la France.
Ouais,
je suis
venu
souvent avec mon mari parce que y a beaucoup de gens qui nous envoyaient des messages en disant ce que vous faites, ça contribue à faire avancer la société. On se dit qu'on peut avoir une utilité. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre et de partager notre histoire pour que les gens aient une vision peut-être un peu moins caricaturale de l'homoparentalité. Et ce qui m'a surpris, c'est que on pensait à vrai dire que le livre allait être plus communautaire, entre guillemets. Donc quand on allait aller dans les dédicaces, qu'on allait surtout avoir des couples homo. Et en fait, il y en avait, bien sûr, mais c'était une minorité. Il y avait peut-être un quart à tout casser. Mais les trois quarts des gens qui venaient nous voir, c'était des gens qui avaient vu des interviews où on avait parlé du livre, qui étaient touchés par notre famille. Par notre projet de vie et qui avait envie de partager avec nous. Il y a des mamans ou des parents d'homo aussi qui venaient en disant, vous savez, vous nous avez ouvert beaucoup de perspectives, on avait très peur pour notre enfant et vous nous avez montré que on pouvait se marier, fonder une famille, avoir une vie, je mets des grands guillemets, mais avoir une vie normale, entre guillemets.
Dans cet ouvrage-là, on traite de ton enfance, de ton adolescence, de tes débuts.
Et ouais, je parle de la découverte de l'homosexualité, façon dont ensuite on a fondé notre famille, on est devenus parents grâce à une mère porteuse aux États-Unis qui a porté notre petit garçon.
On suit tout le cheminement.
Et j'explique tout ce qui a été cette espèce de parcours du combattant et en même temps qui pour nous était une histoire extraordinaire parce que on a déplacé des montagnes, on a réussi. Moi, j'ai eu la chance de réaliser mes rêves professionnels en faisant de la télé et de la radio et de réaliser mes rêves personnels parce que quand je me suis découvert homo quand j'étais gamin, on parlait pas du tout de famille homoparentale, ça n'existait pas. Et je me disais, je vais devoir faire le deuil sur l'idée d'avoir un enfant. Et c'est vrai que chez nous, à la maison, la famille, c'était quelque chose de très important et je me projetais beaucoup en ayant des enfants et je me disais, mais là, ça sera pas possible. Et finalement, ça l'a été. Donc, ça veut dire que tout est possible.
Comment faire un enfant quand on est un couple de garçons? Eh ben, ça marche pas toujours.
On essaye, pourtant, mais bon.
Et vous avez le process tout au long de l'ouvrage. Donc, en fait, et ça ne concerne pas que les garçons d'ailleurs, parce que des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants peuvent aussi passer via ce processus.
On estime que pour la gestation pour autrui, exactement, ça concerne à peu près, en France, 60% des couples concernés sont des couples hétérosexuels. Donc, c'est vrai qu'on montre toujours du doigt les couples homo, mais c'est aussi très souvent des femmes qui sont stériles et du coup c'est une autre femme qui porte leur bébé.
Et d'ailleurs c'était pas si évident que ça parce qu'il y a aussi de la discrimination de la part des mères porteuses qui se dit non moi je veux pas porter l'enfant d'un couple gay, tu l'as vécu aussi.
C'est-à-dire que quand tu passes par une agence aux États-Unis pour entrer en contact avec des donneuses d'ovocytes et des mères porteuses et puis t'as effectivement des femmes qui indiquent qu'elles ne sont pas à l'aise, t'en as qui ne veulent faire cela qu'avec des couples américains par exemple et pas
aussi,
des couples étrangers. Et puis tu as à l'inverse des femmes qui préfèrent ne le faire que pour des couples homosexuels justement. Et il y a pas mal de mères porteuses, c'est intéressant, c'est ce qu'on m'a raconté dans une des dames de l'agence avec qui je suis resté assez proche, qui m'expliquait qu'il y avait de plus en plus de femmes qui préféraient faire ce projet là avec un couple gay parce que quand il y a une femme hétérosexuelle, elle a toujours peur d'être
jalouse
en concurrence, qu'il puisse y avoir que la femme n'ait pas vraiment fait son deuil de ne pas pouvoir porter l'enfant et qu'il y a quelque chose de jalousie ou de quelque chose de malaise
en tout cas
qui puisse être compliqué, alors qu'avec un couple de garçons par définition ce problème-là n'existe pas.
Alors,
donc voilà. Mais après c'est
très long.
C'est très long.
Et c'est très cher aussi.
C'est très long et c'est très cher. Ça, c'est une réalité.
Oui, t'as dû bosser deux fois plus. On pense à la prod Secret Story.
C'est ça.
Qui pourrait revenir d'ailleurs. On aura l'occasion d'en reparler.
Mais
Secret Story.
Ce qu'il faut expliquer. C'est ce que j'explique dans le livre.
C'est un coup aussi.
À un moment donné, j'ai eu la chance d'avoir eu des contrats d'émission qui, effectivement, j'étais bien payé. J'ai mis beaucoup d'argent de côté pour pouvoir réaliser ce projet. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, je l'ai fait aux États-Unis,
du côté de Las Vegas.
Les choses sont faites de manière extrêmement encadrée, il y a beaucoup de garde-fous, donc c'est pas on n'arrive pas avec un chéquier en disant on paye, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et ce qui coûte beaucoup d'argent sont les frais médicaux aux États-Unis qui sont hors de prix. Nous, on se rend pas compte parce que c'est pris en charge par la collectivité, la santé, donc on ne sait pas vraiment combien ça coûte. Mais un accouchement aux États-Unis, c'est entre 20-25 000 $.
$25 000,
c'est rien que l'accouchement.
Juste l'accouchement,
L'accouchement,
toutes les visites en amont, les échos,
la création de l'embryon, la fécondation in vitro, etc.
Les assurances, la mère porteuse à payer,
$40 000.
Les avocats.
Donc,
c'est un petit budget, 150 000 euros, on peut le dire.
Entre 100 et 150 000 euros, nous, c'est aux alentours de 120 000 euros. Mais on m'a dit là que depuis, ça avait augmenté.
En plus, et oui, voilà. C'est l'inflation, mais pas qu'en France.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces coûts-là, en même temps, ça garantit aussi un accompagnement juridique, un accompagnement psychologique, des médecins qui. Des analyses médicales très poussées pour faire en sorte que tout se passe très bien. Ce sont des grossesses extrêmement surveillées pour que personne ne soit lésé. Et il faut bien préciser que les femmes, par exemple, qui désirent être mère porteuse aux États-Unis dans le cadre de ce qu'on appelle la GPA éthique, ne peuvent pas le faire si elles ont des problèmes financiers.
Voilà, elles doivent avoir un certain niveau de vie.
Et ne peuvent pas le faire si elles n'ont pas eu d'enfants.
Exactement.
Déjà, je crois,
il faut qu'elles aient déjà des enfants et qu'elles aient terminé leur famille, entre guillemets, qu'elles aient le soutien de leur mari dans ce projet-là et qu'elles n'aient pas besoin d'argent pour que l'argent ne soit pas une motivation.
Alors, il y a quelqu'un qui a...
ça c'est plutôt bien foutu.
C'est pour ça que les gens qui disent ah vous avez utilisé une femme dans la misère quand je lis ça.
Non,
ça,
c'est pas le cas.
Ça
justement.
N'est pas possible.
C'est quelqu'un
aux États-Unis.
Revenu.
Ça c'est possible dans certains pays. Ça a été possible longtemps en Ukraine par exemple.
Mais tout à fait, c'est exactement ça que je pensais.
Et il y a eu des trafics vraiment. J'en parle dans le livre d'ailleurs en disant que quand on se met à chercher et qu'on ne connaît rien, on se rend compte qu'il y a des choses pas jolies qui existent.
Il y a quelqu'un qui a été important aussi dans le process, c'est Jarry.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire pourquoi?
En fait, j'ai travaillé avec Jarry sur une émission qui s'appelait 5 à 7 avec Arthur.
Oui.
Et puis un jour,
Arthur,
du jour au lendemain, il est parti aux États-Unis parce que ses enfants allaient naître et il m'a expliqué la démarche. On est allé voir ses jumeaux, il avait un petit garçon et une petite fille avec mon mari. Et nous, on avait vraiment en tête ce projet-là. Et c'était la première fois que je voyais quelqu'un d'aussi proche de moi, que je connaissais bien, me montrer que
c'était possible.
Que c'était possible, exactement. Donc il m'a donné les contacts, on l'a fait dans la même agence. De mères porteuses américaines, qui sont des gens formidables, et il m'a passé un peu le témoin en quelque sorte. Mais voilà, il m'a ouvert le champ des possibles. Et si jamais j'ai pu réussir à faire ça pour tout un tas de familles et de couples homo, avec le livre et avec la promo qu'on en a faite, parce que tous les gens n'ont pas acheté le livre, mais il y a eu beaucoup d'émissions, on en a entendu parler, donc le message est passé. Si jamais ça a pu faire bouger un peu la société, je suis très fier.
Comment se porte Valentin aujourd'ui?
Super. Voilà. Épuisant.
Épuisant.
Non mais il est génial, on a de la chance. C'est un petit garçon qui pète la forme, qui est en pleine santé, qui s'éclate, il est à l'école. Là, il a 3 ans maintenant.
Ouais.
Voilà, il est en première année de maternelle et il s'amuse beaucoup.
Et la mère porteuse, Whitney?
Oui. Alors elle va très très bien, on est toujours en lien avec elle. Elle devait venir la première année après la naissance de Valentin, sauf que c'était le Covid. Il est né fin 2019 et après il devait venir l'été d'après et ils n'ont pas pu venir pendant 2 ans. Là ils viennent enfin cet été.
Ah,
donc
génial.
Enfin on va les revoir, je dis « il » au pluriel
au
parce qu'il y a Jacob, le mari de Whitney, qui l'a accompagné, qui a été avec nous, qui était même là le jour de l'accouchement, dans la salle d'accouchement, je raconte ce moment incroyable. Mais voilà, oui, on continue de se parler très régulièrement.
Et toi, t'as tenu à ce qu'elle ne soit pas anonyme?
Alors,
parce que t'avais le choix.
Non, c'est la donneuse de vos
sites
qui peut rester.
Ah oui, pardon.
Parce que oui, c'est ça qu'il faut comprendre aux États-Unis.
Il y a deux femmes. Voilà,
exactement.
Dans cette histoire-là, c'est vrai.
Il y a une femme qui fait le don de vos
sites. Tout à fait.
Et une autre qui
reçoit. Hein.
Voilà,
exactement.
C'est important de le préciser.
Une autre qui
est mère porteuse.
Et du coup, qui porte un bébé avec lequel elle n'a aucun lien génétique.
Okay. Absolument. C'est ça peut aider aussi le détachement.
Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont plus de 30 ans de recul aux États-Unis. Et effectivement, il y a l'accompagnement psychologique. Et effectivement, ce qui est expliqué, c'est que le fait de porter un enfant avec lequel tu n'as aucun lien génétique.
Ouais, je pense que
permet de ne pas s'attacher ou moins s'attacher, puis après voilà, c'est, ils ont le recul, ils ont un certain recul, ils savent, il y a eu des études et heureusement ça se passe bien. Donc et puis on a gardé le contact avec les deux effectivement et avec notre donneuse de vos sites
aussi.
Il y a à peu près un quart des femmes qui souhaitent garder le contact. Et donc pour moi c'était quelque chose d'important parce que je voulais que mon petit garçon quand il serait un peu plus grand puisse connaître toute son histoire.
Et la petite anecdote aussi du bouquin sur le moment donné où tu rencontres Whitney, parce que c'est toi qui vas à la rencontre de Whitney.
Alors,
il faut le préciser.
Je l'avais rencontré entre guillemets par Skype, on avait fait connaissance, on avait discuté,
mais
etc. Et le jour où je la rencontre physiquement, je lui ai fait la surprise effectivement parce que je suis parti aux États-Unis à Las Vegas faire une interview de Céline Dion. Et je suis arrivé avec des petits cadeaux pour les enfants, etc. Et elle habite dans une maison qui a à peu près une trentaine de kilomètres de Las Vegas. Donc j'ai pris un petit taxi, enfin un Uber comme ça, et je suis allé devant la maison. J'avais appelé avant, j'avais envoyé un petit message pour savoir si elle était là parce que je voulais lui livrer un truc. Je disais qu'il y a un livreur qui allait passer. Il m'a dit oui, on est à la maison. Le livreur c'était moi en fait. Et du coup
surprise.
Elle a été un peu surprise,
j'imagine.
Mais du coup. J'ai fait cette surprise et puis j'ai pu voir, ils sont propriétaires d'une maison, ils ont une grande voiture, lui il est cadre hospitalier, elle s'occupe de ses enfants mais elle travaille aussi, elle travaille à l'école avec les petits.
C'est une belle histoire.
Ce que j'ai compris au fur et à mesure avec Witness, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui avait envie sur la planète de réaliser quelque chose d'exceptionnel, d'aider des gens à vivre. Elle adore sa famille, pour elle c'est très important et elle avait envie de permettre à d'autres de pouvoir vivre un bonheur pareil.
Et alors, Christophe, comment réagit Valentin le fait d'avoir deux papas? Parce que quand il va à l'école, par exemple, il y a maman et papa.
Ah, mais il est très fier.
Comment il réagit?
Alors, il est très fier. Il dit d'accord. Moi j'ai deux papas. Et il nous le dit souvent. Des fois, il nous dit, mais pourquoi il n'a pas de papa? Son meilleur copain s'appelle Panayotis.
D'accord.
C'est un petit grec.
Ouais,
Et on connaît bien ses parents, on s'entend hyper bien avec eux. Mais c'est vrai qu'il a intégré, il dit, il y a des familles où il y a deux mamans, des fois il y a deux papas, des fois il y a un papa et une maman.
Il n'y a qu'un papa ou qu'une maman.
Les gamins, ils ont intégré.
Ouais, c'est aussi simple que ça, en fait. Je pense que c'est nous qui nous mettons plus de nos cerveaux.
C'est ça.
Mais ce qui est drôle, c'est que on a participé à la fête de la crèche l'année dernière. Et il y avait des grands frères qui étaient là, qui avaient peut-être plus 5, 6 ans, 7 ans, pour la fête de la crèche. Et à un moment donné, j'ai entendu un gamin dire à sa maman: maman, maman, c'est les deux papas. comme si on était une attraction. Mais c'était mignon, c'était pas
bien
du
sûr,
tout.
Ouais, mais c'est papa c'est célèbre. Vrai, c'est... Et puis c'est papa célèbre aussi.
Oui,
donc ça,
oui,
ça permet d'arranger les choses parce que c'est sans doute plus difficile dans d'autres circonstances, dans d'autres milieux. Alors qu'un papa célèbre, et puis on peut parler aussi rapidement de ton mari, qui est aussi journaliste.
Oui, il est journaliste. Gislain est journaliste dans des émissions. Il a bossé sur La Quotidienne de France 5, à Midi en France aussi. Effectivement, mais qui lui est derrière la caméra.
D'ailleurs,
mais...
c'est Christophe Beaugrand Jorin.
Exactement, Christophe Beaugrand Jorin. On a décidé de changer nos noms au moment de notre mariage, justement pour avoir tous les trois avec Valentin le même nom sur le passeport.
Oui, c'est
vrai que ça aide les choses aussi au niveau administratif aux États-Unis notamment.
Ouais,
et du coup, on a tous le même nom, ce qui est plus pratique et qui facilite les choses. Et puis, c'était normal pour moi que notre enfant ait le double nom et qu'on le porte aussi. Après, mon nom public reste Christophe Beaugrand, mais sur mes papiers ou à la Sécu, c'est Beaugrand Jorin.
Et cet ouvrage aussi, vous savez quoi? Eh bien, il pourrait être. Adapté en télévision.
On y réfléchit, on est en train d'y travailler. Après, je sais pas ce qui va se faire, ce qui peut se faire ou pas. Je sais que pendant un temps, TF1 était intéressé, mais après les sujets sociétaux, il y a eu quelques trucs qui n'ont pas fonctionné. Donc,
ça serait plus l'après, peut-être.
Donc on est en train de travailler sur un projet. Je travaille avec des scénaristes, avec JLA Productions. J'espère que ça va se faire. Vous savez, sur les fictions, notamment, c'est encore plus dur pour les émissions.
Non, c'est pas
entre tout ce qui voilà, s'il y a une chance sur 10 peut-être que ça se fasse, mais on va continuer à.
Et tu veux pas la porter en tant que comédien?
Ah non, parce que alors, pour le coup, j'ai un respect infini pour le travail de comédien. J'adore les interviewer, faire un petit guest comme ça, ça me fait marrer. Mais franchement, je préfère laisser faire aux professionnels ce métier.
Parce que Jean-Luc Reichmann était comédien sur des unitaires sur TF1.
Il est comédien
Christophe de Chavannes. Il fut un temps a fait des unitaires aussi sur TF1.
Oui.
Enfin,
je crois que ça n'a pas super bien marché.
Oui,
mais Jean-Luc, c'est différent. Jean-Luc est comédien à la base, donc c'est pas la même chose.
Il y a eu la gaffe aussi, gaffe un film.
Non, mais après, je respecte complètement les gens.
L'histoire est belle, elle mériterait d'être portée à l'écran.
En tout cas, je me sens pas prêt, moi, à devenir comédien. Peut-être un jour, Laurent Ruquier me dit depuis des années, je suis sûr que tu y viendras.
Ouais, moi, je te verrai bien.
D'ailleurs, je ferai ça quand je serai vieux.
Tu commences un petit peu avec la comédie de doublage quand même.
Ah oui, mais alors ça c'est un peu différent. Mais oui, c'est un peu de la comédie.
La comédie.
C'est vrai que j'ai doublé un dessin animé là qui est sorti l'été dernier, à la fin de l'été. De l'explorateur et la table d'émeraude. Et je jouais l'horrible Ryan, le chef des archéologues extrêmement méchant. Je me suis éclaté. Éclaté.
Travail de la voix.
Ah, j'adorerais refaire du doublage. Ouais, non, c'était super. Le film a super bien marché en plus, on est très contents. J'espère qu'il y aura une suite et que le méchant sera toujours là.
Et il a des talents d'imitateur aussi. Hein?
Ça, grosse tête,
Carla Bruni, tu le fais très bien.
Oh, arrêtez de vous moquer de moi. Je ne voudrais pas me faire virer à nouveau.
Maintenant, Sarkozy a moins de pouvoir quand même.
Maintenant, oui. Il y a des causes à défendre Isa, tu voulais
ouais,
dire un mot
là-dessus. Bah oui, oui, parce que je sais que tu es très investi là-dedans et que ça m'a toujours un peu voilà, percuté, on va dire, entre guillemets. Tu étais très investi, me semble, tu me dis, tu me reprends si je me trompe, auprès du refuge.
Oui, je suis un des parrains du refuge.
Voilà.
Ouais.
Et voilà, qu'est-ce que. Est-ce que tu imagines que ta notoriété te permet de justement de défendre ce type de cause
pour ou... moi quand on a une notoriété, qu'on a les projecteurs sur soi, il faut tenter de temps en temps de faire des choses qui vous semblent utiles. Moi c'est ma façon de voir les choses, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire mon coming out et que je parle publiquement de l'homosexualité, parce que je pense que c'est très important pour l'identification, pour que les jeunes puissent se dire que on peut trouver sa place dans la société en étant un jeune homo. Il faut toujours quand même rappeler que la première cause de suicide chez les adolescents, c'est l'homosexualité, le harcèlement homophobe. On l'a vu récemment avec l'affaire du jeune Lucas. Et donc, je me bats aussi avec une association contre le harcèlement scolaire. Et je soutiens, il s'appelle Hugo Martinez, l'association s'appelle Hugo. C'est lui qui est à l'origine du projet de loi, justement, pour la pénalisation du harcèlement, en faire un délit pénal. Et c'est pour ça qu'il y a quatre enfants, on peut dire enfants à 13 ans, qui sont mis en examen pour la mort du petit Lucas, pour l'avoir poussé au suicide.
On peut parler rapidement du refuge. Oui. Cette association, elle a pour objet.
Alors le refuge, voilà, pour qu'on comprenne, effectivement, c'est une association qui permet d'accueillir les jeunes mis dehors par leurs parents quand ces parents apprennent qu'ils sont homosexuels. Et hélas, il y en a encore beaucoup. On essaye de faire avancer les choses. Alors je l'ai pas, je raconte dans le livre, je l'ai pas vécu de la part de mes parents, heureusement. Mais j'ai habité quand j'étais étudiant chez mes grands-parents et mon grand-père. J'habitais chez mes grands-parents et mon grand-père m'a foutu dehors quand il a su que j'étais homo. Du jour au lendemain, il fallait que je m'en aille.
Donc tu l'as vécu.
J'ai vécu ce alors,
Tu te construis par rapport à ça?
Toute la famille a fait bloc et m'a soutenu, donc il s'est retrouvé, lui, bien isolé. Donc,
d'accord.
Mais du jour au lendemain, je faisais plus partie. J'étais devenu ce qu'il disait, la honte de la famille.
Ça, ouais.
Et j'étais devenu. Il m'a plus jamais reparlé.
C'était violent.
Même au mariage,
à l'enterrement de mon père, puisque mon père est mort
jeune.
Mon père est mort jeune d'un cancer. Ouais. Moi j'avais 25 ans.
53 ans, c'est ça, ton papa?
Il avait 53 ans. Et du coup, le jour de l'enterrement, je suis allé le chercher à la gare. Je pensais qu'on allait se reparler et il m'a pas adressé la parole. Il a parlé à mon cousin qui est venu. Je suis venu le chercher avec mon cousin et il m'a pas parlé. Donc bon, à un moment donné, on se le prend dans la gueule. Oui, ça laisse des traces.
Mais
on se construit aussi comme ça. Et c'est pour ça que je me bats aussi, que j'essaye de montrer un exemple, je le disais, de normalisation, pour montrer aux gens qu'il n'y a pas de drame à être homosexuel. C'est pas parce qu'on a une identité sexuelle un tout petit peu différente, sinon notre vie elle est la même. On a les mêmes amours, on peut fonder des familles, on a les mêmes emmerdes au quotidien, on a les mêmes vies que tout le monde en fait.
Surtout que ça a toujours existé dans
exactement. Il y a des sociétés, l'antiquité grecque ou autre, où c'était intégré et que ça ne posait problème à personne.
Absolument.
Donc bon voilà, j'essaye d'inspirer positivement la société de temps en temps. Donc j'espère que ça avance.
Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es un modèle ou un exemple pour ces jeunes adolescents qui font leur coming out?
Alors je sais pas si je suis un modèle, parce que ça serait très prétentieux de dire ça. Mais
est-ce qu'ils te prennent eux pour un modèle ou pour un exemple?
En tout cas, il y a des jeunes qui me disent grâce à toi, je me sens mieux dans mes baskets, j'ai moins peur d'en parler à mes parents. Le fait que
d'ailleurs c'est touchant avec ta maman dans le bouquin aussi.
Oui, parce que j'ai une maman qui a accepté mon homosexualité très jeune et quand elle l'a découvert elle a découvert avant que je lui dise.
Elle le savait avant, c'est ça.
Elle a décidé d'aller voir un psy pour savoir comment me parler pour pas
d'ailleurs rassurez-vous aussi hein, souvent l'entourage le sait, enfin je peux me permettre, l'entourage le sait,
c'est vraiment un scoop
et c'est vous qui vous mettez
on est parfois les seuls à penser que personne n'est au courant,
c'est ça aussi.
Non mais après il y a pas d'injonction non plus à faire son coming out. Que chacun fasse comme il le souhaite. S'il pense que ça va être compliqué dans sa famille, il faut vivre pour soi et pas pour faire plaisir aux autres. C'est ce que je dis toujours. À un moment donné, la vie est courte, il faut tenter d'en profiter. Et après, si vos parents n'acceptent pas, après ça devient leur problème. Ils règlent leurs problèmes avec eux-mêmes. S'ils veulent s'éloigner de leur enfant, alors qu'un enfant, je le dis en connaissance de cause, c'est la chose la plus extraordinaire qui peut vous arriver dans la vie. Si jamais vous faites une croix sur votre enfant parce qu'il ne vous ressemble pas, c'est horrible, c'est d'une tristesse. C'est vous qui êtes très malheureux. Et votre enfant, il se construira autrement. Il créera sa propre famille, une famille d'amis peut-être. peut-être avec la personne qui vivra avec, et ils se créeront une famille, et ce sera autre chose, on recréera quelque chose. Mais là, c'est important, la famille. C'est, pour moi, c'est la base de la société.
C'est le noyau de...
Exactement.
Allez, Christophe et l'équipe, on va s'écouter un titre, c'est Whitney Houston, tout de suite. It's not right, but it's okay. Okay.
Voilà.
It's okay, yes.
Okay.
Dynamique Radio, c'est la radio pour tous.
Allez, de retour dans l'After School, on est en direct sur Dynamique Radio avec Christophe Beaugrand qui nous fait le plaisir d'être parmi nous.
Merci de m'inviter, c'est très agréable de discuter avec vous.
Et ouais, promo Ninja Warrior, hein, parce que c'est la deuxième partie de la finale ce samedi.
Oui, à ne pas manquer, 21h10 sur TF1.
À ne pas manquer sur TF1 avec Christophe. Allez, on passe au tac rapidement.
Pas de problème.
La plus grande star que tu as interviewée?
Oh, je dirais à égalité Céline Dion et Elton John.
Abdo ou pas abdo?
Ça dépend des jours. C'est-à-dire, abdo, j'en fais, mais j'en ai toujours pas.
Fidèle, voilà. Ou pas fidèle?
Ça dépend des jours.
Ghislain, si tu nous écoutes.
Je suis fidèle avec conviction.
Non, oh, amen. Amen. Oui. Qu'est-ce que tu regardes à la télé?
Je regarde tout. Je regarde tellement de choses. J'adore. Ça peut être des séries hyper populaires comme des documentaires sur Arte ou les débats politiques. J'adore. Donc, je suis très télévore. Ouais. Je fais de la télé parce que j'aime la télé.
Tu fais des selfies chez Jiffy?
Je peux faire des selfies où vous voulez, y compris chez Jiffy.
Parce que je sais que certains week-ends, tu es passé chez Jiffy.
Bah, c'est mon mari qui me traîne là-bas. Maintenant, on va chez Action.
Si, okay. Si tu devais.
Jiffy, c'est tellement. C'est tellement 2020. Non, non, maintenant. Si, on est dans le turfu.
Oui, faut nous, qu'on retrouve un troisième, par contre.
On est chez Action.
Si tu devais être un
personnage. C'est la foire fouille. Voilà.
Si tu devais être un personnage dans Astérix, quel serait ton nom?
Moi, je pense que je serais le barde. Je serais Assurance Touriste. Assurance Touriste. J'adore chanter et parfois, on a envie de me baïonner. Donc, ça correspond.
Ok. Ton animateur préféré?
Celui qui m'a donné envie de faire de la télé quand j'étais gamin, c'était De Chavannes. Je trouve toujours que c'est le meilleur. Alors, on le voit beaucoup moins aujourd'hui, évidemment, mais c'est, je trouve que ça a été...
Ciel, mon mardi, coucou, c'est...
Exactement, ça a été le meilleur de très loin, je pense.
Ton plus gros défaut?
Bavard, ça c'est sûr. Je suis très souvent en retard et un peu chiant, mais gentil.
La journée type de Christophe Beaugrand?
Réveil vers 7h15, j'écoute un peu la radio, les infos, je vais réveiller mon petit garçon vers 7h45, là le bain, on habille la bête et on est en retard tous les jours, on part en courant, parfois sur les épaules, parfois sur la trottinette, parfois en courant, pour l'école, voilà.
Avec madame ou pas madame?
Madame est une grosse feignasse, elle dort.
Madame n'est pas du matin.
Madame n'est pas du matin.
Madame
c'est mon chien,
matin.
Au cas où. Hein.
Oui, okay. Oui.
Ah, maintenant, je sais pas, je pensais à Ghislain, moi, tu sais,
j'étais un berger paumé.
J'étais complètement paumé.
On parle d'un berger australien, ne vous inquiétez pas. C'est un chien.
Très belle bête.
Et ensuite, alors, parce que.
Autre question.
Autre question.
On l'a troublé.
La personne la plus célèbre de ton répertoire?
Emmanuel Macron.
Okay. Ah, on peut l'appeler.
C'est pas mal quand même. Bon, mais on m'avait filé son numéro, j'ai jamais essayé, donc je sais même pas si c'est vrai.
Ah,
mais
on essaie en direct.
C'est peut-être contre, tu peux appeler Brigitte.
C'est peut-être le faux. J'ai pas le Brigitte.
Ah, t'as pas Brigitte.
J'ai pas Brigitte.
Alors nous, on a appelé l'Élysée une fois en direct.
Ah ouais.
Pour leur demander l'histoire de la fève.
Ah oui, la fève, il n'y a pas de fève, voilà. À l'Élysée, c'est pas possible.
Eh oui, il n'y a pas de fève.
Effectivement, parce qu'il n'y a qu'un président,
il n'y a pas droit,
c'est pas possible.
Eh bien, merci pour le tac au tac. Les projets pour la suite?
Les projets pour la suite, je suis sur un projet d'émission événementielle d'une émission. Là, j'espère qu'elle va pouvoir se faire, mais
c'est trop tôt pour en parler. Personne ne nous écoute.
C'est trop tôt pour en parler. Ça sera peut-être jamais. Donc, j'espère que ça va se faire. On a les nouvelles émissions de Ninja Warrior et une émission spéciale qui se prépare. En plus des émissions classiques, il va y avoir un prime événementiel qui, je pense, va être probablement diffusé l'été, à mon avis. Là, je ne peux pas vous donner la thématique encore, mais je pense que ça va bien plaire à notre public et aux fidèles de l'émission. Et puis sinon, LCI, ça marche toujours très bien. Donc, venez me voir à 6h30, 10h.
Tous les samedis, tous les dimanches, n'hésitez pas.
Et puis après, il y aura sûrement plein d'autres choses qui vont arriver à suivre.
Et tes réseaux ? On les donne
évidemment sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas.
Très actif sur Twitter. Hein.
J'ai un TikTok aussi, dont je ne me sers jamais, mais
essayez.
Mais je vais aller sur TikTok un peu.
Très bien. Je suis sur Facebook. Bon bah écoute, merci à toi d'être passé.
C'était un plaisir. C'était très dynamique. Qu'est-ce qu'on rit chez vous.
Sur une note d'humour.
Cacahuète. Non mais faut que j'écrive.
On va bien garder plus longtemps.
Faut que j'écrive un autre livre. Les gens me le disent, on veut la suite, mais en vrai, c'est énorme, il se passe pas grand chose quand même dans une vie normale. Bon, merci à tous et à très bientôt. Au revoir.
Dynamique Radio. Dynamique, premier sur le web.